franceinter.fr.
7h42, Alain Baraton, Alain Bougrain-Dubourg et François-Régis Gaudry sont là. On commence par vous, Baraton.
Avec plaisir, Martin.
J'aime bien quand vous m'appelez Martin. Pierre Veil connaît bien le jardin du Luxembourg.
Eh oui, c'est l'un des endroits les plus agréables de Paris. Nous en parlions il y a très peu de temps. Oui. Je voulais faire plaisir à Pierre Veil.
Merci.
Car il ignore peut-être l'histoire de ce lieu qui mérite d'être conté. Déjà, le jardin du Luxembourg est aménagé par Marie de Médicis qui veut s'éloigner et au plus vite du Louvre. Il règne alors à Paris une insécurité démentielle et tous les bandits et voyous de la capitale semblent avoir pris pour habitude de se retrouver sous les fenêtres de la Reine de France.
Et c'est pas par là que Henri IV a été assassiné, c'est
dans ce point-là. Le 14 mai 1610, exactement. Marie de Médicis pense que les Ravaillacs sont encore nombreux à rôder. Aussi décide-t-elle de s'installer à la campagne, de l'autre côté de la Seine. Elle jette son dévolu en 1612 sur un hôtel particulier qui possède un parc de 8 hectares. Elle n'aura ensuite de cesse d'acheter les propriétés avoisinantes et peu à peu de frais, car ce ne sont que des champs et des vergers.
Et est-ce qu'on sait qui a construit cet hôtel particulier ?
Eh oui, ça devient important, oui, car il s'agit du duc de Pinay, Luxembourg, un nom qui traversera les siècles. Cet aristocrate est ami avec Marie de Médicis, et il l'a souvent invité à venir chez lui, s'y détendre avec son fils, le futur Louis XIII. Pour occuper le gamin, les domestiques ne manquent pas d'imagination. On lâche des marcassins que le prince massacre allègrement. Oui, sans commentaire, ouais, c'est épouvantable.
Alors, le jardin, les bâtiments, c'est maintenant ses propriétés de l'État, mais ça s'est passé à quel moment en fait ?
Eh bien, c'est lorsque le baron Haussmann a commencé ses grands travaux. La propriété faisait déjà partie de l'État, mais l'idée d'amputer une partie des jardins, eh bien, de ces terres a créé une très vive polémique. La pépinière, il y avait une pépinière incroyable qui faisait la réputation du site, est complètement détruite. Et cette disparition affecte bien sûr Victor Hugo, mais aussi et surtout Guy de Maupassant, qui écrit en 1882 ce très joli texte.
Alors, vous voulez que je le lise ?
Avec plaisir.
C'était comme un jardin oublié de l'autre siècle, un jardin joli comme un doux sourire de vieille. Des haies touffues séparaient les allées étroites et régulières, allées calmes entre deux murs de feuillage taillés avec méthode. Les grands ciseaux du jardinier alignaient sans relâche ses cloisons de branches et de place en place, on rencontrait des parterres de fleurs, des plates-bandes de petits arbres rangés comme des collégiens en promenade, des sociétés de rosiers magnifiques ou des régiments d'arbres à fruits. J'adore les sociétés de rosiers magnifiques.
C'est très joliment écrit. Et en 1885, c'est un autre très grand nom de la littérature qui écrit, c'est Anatole France qui s'exprime par la voix de Pierre Veil.
Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est plus triste et plus beau que jamais, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau.
C'est beau, hein.
C'est très
je trouve ça magnifique. Ouais. Alors le jardin du Luxembourg est depuis toujours fréquenté par des artistes, des auteurs, des journalistes et Pierre Veil en particulier, des citadins tout simplement en quête de nature et par beaucoup d'enfants qui autrefois d'ailleurs venaient se promener dans des landaux tractés par les chefs. Il y a encore de vieilles cartes postales où on voit c'est assez amusant. Je suis pas sûr que les animaux étaient contents de tracter les gamins, mais la vision était elle par contre douce et agréable à contempler.
Alors, il y a des ânes encore au jardin du Luxembourg qui promènent les enfants.
Je n'aime pas tellement l'utilisation des animaux pour le loisir. C'est un petit peu, on en reparlera un jour avec Bougrain-Dubourg également, concernant les animaux qu'on utilise dans l'éco-pâturage. C'est très chic aujourd'hui de mettre par exemple des moutons le long du périphérique, on tond les pelouses, mais est-ce qu'on pense aux animaux, c'est autre chose.
Je l'ai fait remarquer à la mairie de Paris tout récemment.
Eh bien très bien, parce que Alain Bougrain-Dubourg se préoccupe des moutons et moi des pelouses, nous sommes complémentaires. Alors le temps passe au Luxembourg.
Un couple en quelque sorte.
En quelque sorte, un vieux couple qui a tout.
Oh bah parlez pour vous, mon cher Baraton.
Alors sachez que le temps passe au Luxembourg, mais qu'il y a toujours des gamins qui font voguer des bateaux sur les bassins. Il y a toujours des amoureux qui s'embrassent sur les bancs publics. Et c'est important l'amour à la Bougrain-Dubourg. Et il y a toujours des abeilles qui produiraient, paraît-il, un miel exceptionnel. Oui, Pierre Veil, vous avez raison, c'est cela le jardin du Luxembourg, un petit paradis en plein cœur de Paris.
Je me promenais l'autre jour au Luxembourg, j'étais un peu triste parce que vous savez le fameux manège avec les chevaux de bois et les enfants qui attrapent avec un petit bout de bois.
La queue du Mickey.
Voilà, il est fermé. Pour l'instant, il ne fonctionne pas. Moi, ma fille a grandi sur ce manège.
Mais c'est ça, un jardin en ville. Ce sont des souvenirs.
Ça, c'est de l'info.
Non, Pierre Veil a raison.
Mais il y a un très beau guignol aussi, jardin Luxembourg. Il y a un guignol génial.
Ce sont des souvenirs. Un jardin, finalement, c'est un marqueur du temps, comme un arbre. Quand on pense à un jardin, on pense à un moment précis, mais on pense à un enfant, on pense à une personne âgée qui vient s'y reposer. Et puis, je l'avais dit, je vais le redire avec beaucoup de plaisir, Je disais que Victor Hugo, grand amateur de femmes, lorsqu'il a été enterré, le cortège funèbre est passé devant les grilles du Luxembourg. Les femmes de la haute société s'étaient assemblées pour regarder une dernière fois la dépouille du grand homme devant elles. Et parce qu'elles savaient la coquinerie de Victor Hugo, elles avaient mis sous leurs vêtements austères des sous-vêtements affriolants.
Ma, vous aviez quelque chose à ajouter, Pierre Veil?
Le visage des enfants qui attrapent les petits anneaux sur le manège avec un bout de bois, c'est oui. Inoubliable.
Ça s'appelle le bonheur.
Marthe a des géraniums qui l'an dernier, des géraniums qui datent de l'an dernier. Ils vivent en pot depuis 2 ans et ils sont malingres. Que doit-elle faire?
Oui, ce qu'on appelle donc les pélargoniums. Effectivement, quand vous êtes au sud de la Loire ou au nord, pour peu que votre jardin, enfin votre plante, vive en situation protégée du froid, eh bien la plante va résister à l'hiver. Eh bien, il suffit simplement de la pincer. La pincer, c'est tout simplement couper la tige avec les ongles et vous allez ainsi favoriser la ramification. Donc vous réduisez, on va dire, de moitié la hauteur du géranium, il va donc se ramifier, vous aurez plus de feuilles, plus de tiges et plus de fleurs.
Faut-il tailler les pieds de tomates, vous demande Marcel.
C'est une grande question que les spécialistes n'ont toujours pas réussi à trancher. Soit vous taillez les tomates et vous en avez moins, mais elles sont plus grosses, soit vous ne les taillez pas, vous en avez plus, mais elles sont plus petites. À vous de choisir, moins de tomates plus grosses ou plus petites. Vous voulez-vous répéter, Patrick?
Moins de tomates plus grosses et plus petites.
Je sens que vous avez perdu, là.
Non. Je ne vois jamais de fleurs sur mon figuier, pourtant il produit des fruits. Comment est-ce possible? Question d'Edmond.
Eh oui, bonne question. Le figuier fleurit, et il fleurit même abondamment. Sauf que le fruit n'est pas un fruit, c'est une sorte d'utricule, et les fleurs sont à l'intérieur du fruit. C'est très compliqué à expliquer, mais donc les fleurs existent bien, mais elles sont invisibles à l'œil nu. Très peu de végétaux sont dans cette caractéristique-là, mais pour faire simple, pour qu'un figuier sauvage, je dirais, se reproduise, il faut qu'il y ait d'abord un fruit et une petite bestiole qu'on appelle le blastophage. S'il n'y a pas cette petite bestiole, il n'y aura pas de multiplication du fruit, ce qui explique pourquoi beaucoup d'auditeurs téléphonent régulièrement disant « je ne comprends pas, je n'ai pas de fruit sur mon figuier ». Logique, à force de mettre des insecticides, on a tué la petite abeille.
Et pour que les fruits arrivent à maturation, parce que là c'est un problème personnel, si vous permettez que je l'évoque, c'est-à-dire qu'une année, j'ai un figuier qui a donné, un figuier sauvage, hein, qui a donné des figues absolument magnifiques, il faisait très chaud. Et depuis, elles tombent complètement dures et immangeables, évidemment.
Eh bien, nous arrivons au problème du blastophage, à savoir que le figuier a produit des fleurs pour qu'elles soient pollinisées. L'absence de l'insecte reproducteur étant constatée, la plante sait qu'il ne lui sert à rien de s'épuiser inutilement. Elle avorte tout simplement, ce qui explique que souvent, on voit que des figues n'arrivent pas à maturité. Effectivement, elles semblent bien parties, elles ne grossissent plus et elles finissent par tomber.
Que pensez-vous du goutte-à-goutte pour mes pieds de tomates? On revient aux tomates,
oui,
c'est Brigitte qui vous demande
pourquoi
ça.
Pourquoi pas? Mais le goutte-à-goutte, le problème c'est qu'il y a un tuyau qui se balade, c'est pas très beau. Mais non. Par contre, ça a l'avantage, quand vous partez en vacances, de pouvoir arroser vos pieds de tomates sans faire appel aux voisins, qui peuvent parfois être malveillants. Donc pourquoi pas?
Ce qui est bien chez vous, c'est que vous n'avez pas de voisins noyés au milieu du parc du château de Versailles. Les voisins sont loin. Vous avez un conseil de lecture à nous donner?
Une petite promenade.
Une promenade.
C'est la fête des plantes et du jardin du domaine de Perret. C'est à Prissé-la-Charrière. C'est dans le département 79. Et 79, c'est quel département, je vous prie?
Pierre Veil le sait. 79, c'est quel département? Je suis nul.
Je crois que c'est la région Poitou-Charentes.
Poitou-Charentes. Très bien. Oui. Les Charentes, c'est 17, non, il me semblait?
Oui, mais je l'ai dit.
Charentes-Maritimes, oui.
Et 68, c'est le Haut-Rhin.
Ouais, oui, d'accord. Donc, on ne va pas non plus faire tous les départements.
Prissé-la-Charrière, je cherche et je vous le dis dès que j'ai la réponse.
D'accord. Merci à la marathon.